Bonjour, vous êtes sur RDC, Radio Diffusion Charentaise. Vous êtes sur RDC avec Stéphane, RDC 93.4 et 92.5, ou bien sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Il est l'heure de l'émission Donnez-nous vos notes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Une note, donnez-nous vos notes. Des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes aujourd'hui sur les ondes de RDC, Radiodiffusion Charentaise, 93.4 et 92.5, sans oublier le site www.radio-du6rdcfm.com. Qui veut bien nous donner ses notes aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est l'ensemble Heptameron qui nous fait le plaisir de nous donner ses notes, que dis-je, de nous offrir ses notes. Bonjour amis de RDC, bonjour auditrice, bonjour auditeur, bon, vous qui écoutez l'émission Donnez-nous vos notes depuis longtemps ou qui la découvrez peut-être aujourd'hui, c'est l'émission que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer, parfaitement accompagné par Jean-Marc pour la technique qu'il sait à chaque fois déployer. Et à vous qui nous écoutez, je veux dire combien je suis ravi des témoignages de satisfaction envoyés, autant de reflets de votre satisfaction à l'écoute de cette émission. Alors, l'ensemble Heptameron, qui le compose? Trois femmes, trois musiciennes, trois artistes. Morgane Collin, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Il n'y a qu'une Morgane. Magali Poulbeau, bonjour.
Bonjour.
Pauline Josselin, bonjour.
Bonjour.
Auditrice, auditeur, une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter une histoire, vous conter une histoire. Enfermées dans une abbaye, à la suite d'une crue, cinq femmes et cinq hommes se racontent des histoires pour passer le temps. Le temps peut sembler long quand on est contraint. Il faut bien l'occuper, le temps. Voilà donc 72 nouvelles qui seront racontées en 7 jours par 10 orateurs, les cinq femmes et les cinq hommes. On remarquera, je sors du récit, on remarquera le souci d'égalité homme-femme, comme on ne l'appelait pas encore à l'époque de l'écriture de ce texte. Ce texte, nous le devons à une Marguerite fort connue à Angoulême et au-delà. Alors certes, ma présentation de cette œuvre est des plus succinctes, je ne peux la taire aujourd'hui puisque c'est le titre de ce recueil écrit par Marguerite de Valois qui a été retenue par nos invités du jour pour dénommer le trio qu'elle constitue. Ainsi, Pauline, Morgane et Magali sont-elles les membres de l'ensemble Heptameron. Auditrice, auditeur, savez-vous que Marguerite, qui a écrit ce recueil, a un nom qui signifie perle? Alors évidemment, ce sont des perles que nous recevons aujourd'hui, des perles de musiciennes. Mais revenons au nom de l'ensemble que vous formez. Il est Heptameron. L'Heptameron s'est inspiré du Décaméron. C'est un des textes, l'Heptameron, les plus importants de la Renaissance française, entre Rabelais, entre ceux de Rabelais et ceux de Montaigne. Donc 72 nouvelles, je le disais, des nouvelles à l'italienne, c'est-à-dire qui alternent entre le rire et les larmes, qui passent de la farce au fait divers, à la comédie psychologique, au drame. Toutes se veulent véritables et actuelles, à leur époque bien sûr, et toutes se veulent miroir des passions et de la violence humaine. Ah, c'est terrible. Lors de la représentation de l'Heptameron, il est fréquent que, après chaque récit, les acteurs et auditeurs confrontent leurs réactions et leurs interprétations. On parle alors de disputes, c'est-à-dire de discussions organisées, dans laquelle chacun expose son point de vue. Le principe était déjà ancien, il existait dès l'époque de la Gaule romaine, et au Moyen-Âge, la dispute publique est proposée aux étudiants comme moyen d'étudier et de perfectionner leur savoir et leur savoir-faire. Les sujets sont à chaque fois disséqués selon la morale, la société, la sexualité, la métaphysique, que sais-je encore. Ça existe, je crois, encore aujourd'hui avec le débat ou le bord de scène. Est-ce que l'ensemble Heptameron, dites-moi, Magali, Morgane, Pauline, est-ce qu'ils se livrent des fois à des discussions avec les auditeurs, avec les spectateurs, à des bords de scène, à des échanges avec le public? Laquelle parle en premier? Et le sort tomba sur Magali.
Très bien. Le dialogue se fait naturellement quand nous sommes en concert. On dialogue par le regard avec le public, où on prend aussi la parole, et surtout pas un exposé sur la vie et œuvre des compositeurs que nous jouons. Au contraire, on les emmène dans des anecdotes que nous avons vécues. Donc, point de préparation pour nous. On se lance et ça, c'est très agréable. Ça permet de ne pas mettre une distance de moi, je sais, et le public ne sait pas. C'est terrible, ces distances-là.
C'est un moyen de rapprocher l'œuvre des spectateurs et des auditeurs, c'est ça ?
Oh oui.
Et l'art, en général, évidemment, votre art à vous. Alors, si je reprends le titre complet de L'Heptaméron, c'est « L'Heptaméron des nouvelles ». Et puis, je vais ajouter que cet ouvrage a été dédié par Marguerite à sa fille, Jeanne d'Albret. Dédier une œuvre à quelqu'un, pour vous, Magali, Morgane, Pauline, c'est anecdotique ou bien ça revêt une certaine importance de dédier une œuvre à quelqu'un ? Ah, qui peut essayer de... Morgane, vous avez une idée là-dessus ?
Alors, dans les partitions anciennes, puisque nous, on est plutôt spécialisés sur les musiques anciennes...
Bon.
Toutes les partitions commencent par la dédicace au mécène qui a fait la commande de ces pièces.
C'est-à-dire qu'on vit à grâce quand on est artiste à cette époque-là, dans l'époque de la musique ancienne, on va dire la Renaissance, un petit peu avant, un petit peu après, c'est difficile à situer. Hein. On vit grâce à des mécènes, c'est ça ? On
ne
vit pas
fait.
De son art.
Voilà, c'est ça.
Et aujourd'hui, vous avez, pardon, je ne peux pas le dire, vous avez des mécènes peut-être qui vous aident, des aides diverses et variées, on va dire.
Nos mécènes sont nos proches de cœur, pour commencer.
Oui, ça compte voilà. De bien entouré familialement, vous voulez dire. Oui, c'est ça.
Et alors, modestement, François Ier aussi.
Marguerite de Valois, c'est la sœur de celui qui deviendra roi de France. François Ier, vous venez de le dire,
oui.
Magali. Elle est devenue reine de Navarre. Elle est la grand-mère d'un autre illustre roi de France, Henri IV, le Vert-Galant. Elle a joué un rôle diplomatique très important à la cour de France. Elle fut au nombre des mécènes. Elle-même, des artistes et des écrivains. Alors c'est amusant que vous ayez choisi L'Heptaméron, écrit par une des mécènes les plus importantes de l'histoire de France. Et avec L'Heptaméron, elle définit le genre de la nouvelle en langue française, un genre dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Mais voilà, mais, il y a toujours un mais. L'ouvrage est demeuré inachevé. Une huitième journée est en suspens, m'a-t-on dit. Je crois, Magali, Pauline, Morgane, que vous avez retenu, oserais-je dire, un complément du nom à votre ensemble. Les dames de la cour, la musique de la cour des dames, comment c'est exactement ? Dites-moi la formule, Pauline, vous savez ?
À la cour des dames.
Ah, la cour des dames, parce que c'est la musique de cour aussi ?
Alors, l'idée, c'est de faire un voyage à travers les différentes cours d'Europe et de faire découvrir le répertoire qu'on jouait dans ces cours pour se divertir, pour se raconter des histoires sur les différentes périodes.
Alors, je vais oser dire que c'est la musique de la communauté européenne, alors.
Oui, on essaie de faire voyager en Angleterre, en France, en Italie principalement. On ne s'interdirait pas d'aller faire quelques petites excursions ailleurs en Europe, mais c'est vrai qu'on est surtout sur un répertoire qui voyage sur ces trois pays principalement.
Super. Magali, Pauline, Morgane, êtes-vous prêtes à offrir vos notes ?
Oui, avec plaisir.
Ah ben, ça tombe très bien. Alors, gentes dames de la cour, s'il vous plaît, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. Sur RDC 93.4-92.5, dans l'émission Donnez-nous vos notes, nous recevons aujourd'hui l'ensemble Heptaméron, composé de Pauline Jocelyn, Magali Poulbeau et Morgane Collin. Le choix de succession des œuvres, c'est une alternance entre des extraits d'œuvres que l'ensemble joue ou propose, et puis des œuvres dont chacune... pour laquelle chacune a un penchant, on va dire, c'est le principe de l'émission. Et on commence par quelque chose que l'ensemble Heptaméron joue ou a joué. C'est avec, je crois qu'on va entendre du chant, de la chiffonie, des percussions, de la guitare et de la flûte. Est-ce que je me trompe ?
Pas du tout.
Ah, alors comment c'est le titre, Pauline ? C'est Pauline qui vient de parler.
Alors, Bacche Bene Venies.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, c'est une hymne à Bacchus et Ovin qui date du XIIIe siècle. Parce que donc, l'ensemble joue de la musique ancienne et on ne se rend pas compte que la musique ancienne, c'est une période qui est vraiment très longue, qui couvre plusieurs siècles. Hein. On peut interpréter des répertoires sur une période d'à peu près 6 siècles. Et là, c'est un des morceaux les plus anciens qu'on a choisi d'interpréter. Et c'est une sorte de parodie de musique religieuse de l'époque, mais au lieu de louer Dieu, on loue le Dieu du vin.
Ça me fait penser à Carmina Burana. Il y a un lien, on pourrait dire.
Oui, exactement. C'est en fait le poème. On le retrouve dans les Carmina Burana. Souvent, on connaît une version beaucoup plus récente, mais ça a la même origine.
Carmina Burana, ce qu'on connaît. Le plus souvent, c'est Karl Orff, hein, oui, c'est ça, qui a écrit quelque chose à partir de textes anciens. C'est ça, l'idée est la même. Alors, un codex, qu'est-ce que c'est qu'un codex ?
Un codex, c'est un nom qu'on donne à un ancien manuscrit, tout simplement.
Un recueil, alors ?
Un recueil, oui, ça regroupe d'anciens écrits. C'est pas forcément de la musique, ça peut être de la musique, des textes.
Oui, puis c'est des textes qui tournent autour de plusieurs thèmes, qui évoquent peut-être les désirs d'une jeunesse, le thème de la fête, le thème de la taverne, tiens, par exemple, mais aussi des sujets plus sérieux. C'était des goliards, des clercs itinérants, hein, qui colportaient ou qui créaient ces textes et qui les interprétaient ensuite avec un accompagnement de plaisir de la chair, oserais-je dire. On célèbre le dieu Bacchus, hein, c'est ça. C'est donc l'avènement des chansons à boire et puis des plaisirs du vin, etc. Quelle belle manière de débuter l'émission. Alors c'est l'ensemble de Tameron qui joue ?
Oui.
Alors je vais vous dire à la vôtre.
Apéritif.
Bacchi bene veniet, gratus et optatus, perquem noster animus fit letificatus. Iste sifus concavus de modum ero cuplus, si quis vivit sepius, satur fit et tibrius. Isto vinum bonum vinum vinum generosum, redit virum curialem probum animosum.
J'ai parlé des instruments dans ce bel extrait pour débuter l'émission. J'ai parlé d'une chiffonie. Qu'est-ce que c'est qu'une chiffonie ? Alors, c'est vous qui jouez de la chiffonie, Pauline ?
Oui, c'est
moi. Alors dites-nous.
Alors la chiffonie, le nom peut sembler un peu étrange, mais c'est l'ancêtre de la vielle à roue qu'on trouve déjà au Moyen-Âge. C'est un instrument qui est ancien. Et c'est le même principe qu'un violon. On a une roue qui tourne à la place d'un archet et les cordes viennent frotter.
Un archet circulaire.
Voilà, c'est un petit peu ça. La manivelle fait tourner la roue et met les cordes en vibration. C'est ce qui nous permet d'avoir une note qui va être tenue tout le long du morceau qu'on entendait dans l'extrait, qu'on appelle un bourdon, et qui vient vraiment faire une sorte de nappe sonore sur laquelle on va
donc
chanter.
Donc on a une polyphonie quelque part.
Oui.
Plusieurs sons qu'on entend ensemble, même s'il y en a un qui est peu varié, dirons-nous.
C'est ça.
Alors les paroles, qu'est-ce qu'elles disent ? Bacchus, sois le bienvenu, toi le plaisant et désiré, par qui notre esprit se remplit de joie. Et pour finir, tous nous chantons tes plus grandes louanges, et tes grands mérites pour les siècles des siècles. Alors je vais ajouter à consommer avec modération, évidemment, et dire que le vin coupé d'eau était, il y a longtemps, hein, servi dans les cantines scolaires. Peut-être déjà à l'époque du codex d'ailleurs dont nous venons de parler. Mais attention, aujourd'hui, auditrice, auditeur, la consigne est pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. En toute chose, il faut raison garder. Pauline, on reste avec vous pour le premier extrait que vous nous proposez. Vous allez nous parler d'un certain Jean-Philippe Rameau, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ah, allez, dites-nous alors, pourquoi ? Pourquoi alors, Jean-Philippe et pourquoi cet extrait ?
Alors, parce qu'il s'agit d'un des premiers opéras que j'ai eu la chance de voir en vrai, et qui m'a vraiment marqué. Ça commence à remonter, ça devait être vers les années 2010, on va dire. Et ça devait être la deuxième ou la troisième fois que j'allais à l'opéra.
C'est important d'aller à l'opéra et de voir des choses en direct, quel que soit ce qu'on va voir d'ailleurs, le spectacle.
Il se passe quelque chose quand on est dans une salle de spectacle qui ne se passe pas quand on écoute un disque. Et là justement, c'est aussi pour ça que j'ai retenu cet extrait, parce que vraiment au milieu du spectacle, c'est la seule fois où j'ai vu ça à l'opéra, c'était à Garnier à Paris, mais il y a vraiment eu une standing ovation, tout le monde, toute la salle s'est levée et applaudit en plein milieu d'un opéra, ce qui ne se fait normalement jamais.
À notre époque en tout cas, mais si on remonte l'histoire...
Ça se faisait,
beaucoup d'interactions.
Aujourd'hui, ça se fait plus du tout. Mmh. Et il y a vraiment eu un moment suspendu, en fait. C'était tellement... l'interprétation était vraiment extraordinaire. Et Tout le public s'est levé. Et c'est quand même assez impressionnant de voir ça. Et puis j'ai choisi cette œuvre aussi parce que souvent on a peut-être une image de quelque chose de très sérieux quand on pense à l'opéra. Sauf que c'est un genre qui est beaucoup plus varié. Et là on est dans quelque chose qui est assez drôle. Hein. C'est un opéra qui se moque d'une nymphe que Jupiter va tenter de séduire pour rendre Junon jalouse. Donc on est sur quelque chose d'assez drôle.
C'est le triangle amoureux quelque part, encore une fois.
C'est ça, mais c'est un faux triangle amoureux qui n'est pas très sympathique pour la pauvre Platée qui est la nymphe qui fait
Mais le triangle n'est pas forcément isocèle. Ni équilatéral. On appelle ça un ballet bouffon ou un opéra bouffe. Moi j'aime bien le mot ballet bouffon pour ça, surtout pour l'époque. La première représentation a eu lieu à Versailles. Et ce fut, paraît-il, la première et seule représentation à Versailles. Il n'y a pas eu de seconde parce qu'on pensait que jamais on pourrait faire mieux que ce qu'on avait fait à Versailles. Vous voyez, ça on renforce encore ce que vous venez de nous dire, Pauline, sur cet opéra. Voilà, cherchez le mot, ballet bouffon. Il y a un archi-célèbre air qui s'appelle La Folie, c'est ça ?
C'est ça.
Est-ce que c'est celui-là que vous avez
c'est
choisi ?
C'est celui-là, avec l'interprétation de Mireille Delinche qui était vraiment fantastique dans ce rôle.
Donc cette version-là que vous avez choisie,
oui.
On l'écoute ?
Avec plaisir.
Et c'est sous la direction de Marc Minkowski, c'est ça ?
Oui, c'est
ça. Vous êtes fan ?
Fan, je n'utiliserai pas forcément ce mot, mais en tout cas, j'apprécie beaucoup cette version.
Moi, je l'avoue, carrément fan de Marc Minkowski. Marc, si vous nous entendez, vous êtes invité quand vous voudrez. Voici donc le titre, qu'est-ce que c'est ? Pauline, vous nous redites le titre ?
Formons les plus brillants concerts.
Oh, magnifique, les plus brillants concerts. C'est pas par l'ensemble Métaméron, mais les concerts de l'ensemble Métaméron sont évidemment brillants. Parler d'autre chose maintenant avec Morgane, on va parler de concerto. Qu'est-ce que c'est, Morgane, qu'un concerto ?
Alors, un concerto, c'est une œuvre dans laquelle un ou plusieurs musiciens discutent entre eux en musique.
Mmh, ils se concertent ?
Voilà, tout à fait, c'est le verbe concerter.
Mmh.
C'est un dialogue en musique. Généralement, c'est assez virtuose. Puisque c'est pour montrer les capacités.
Écoute ce que je sais faire, c'est ça ?
Un petit peu.
Quand même, c'est un peu de m'as-tu vu quelque part ? Oh, non, on va pas aller jusque-là. Quoique pour certains instrumentistes, pas vous, mais j'en connais. Je ne les citerai pas à l'antenne, évidemment. Vous dites que ça vient de se concerter. Moi, je crois que j'ai trouvé, en tout cas, deux origines possibles : concertare et concerere. Donc concertare, c'est l'idée de rivaliser, vous le disiez, alors que concerere, ça serait plutôt faire ensemble, même si on est aux prises. Les spécialistes, m'a-t-on dit, sont tiraillés entre ces deux versions. Pardon, je vous ai interrompu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous avez choisi là ?
Alors, c'est un concerto à l'origine pour ensemble à cordes, avec deux violons obligés, ça veut dire que ce sont deux violons qui sont solistes, accompagnés par les cordes. Et là, c'est un arrangement réalisé par le Flanders Recorder Quartet.
Excusez-moi, arrangement, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire.
Ça veut dire qu'on prend la musique, comme elle est écrite par Vivaldi, et on l'arrange, on la modifie légèrement pour, cette fois-ci, dans cet extrait que l'on va entendre, pour quatre flûtes à bec, qui sont le Flanders Recorder Quartet, qui est un des ensembles les plus virtuoses au monde.
On écoute ? Alors le titre c'est ?
Concerto en ré mineur, opus 3, numéro 4, l'Allegro de Antonio Vivaldi.
Et ça commence maintenant. là, on entend quatre flûtes, vous m'avez dit ?
Oui.
Quatre différentes ou les quatre mêmes ?
Alors, quatre différentes, parce que la flûte à bec, c'est pas un instrument, mais ce sont plusieurs instruments de taille différente, qui vont de la taille d'une main jusqu'à 3 mètres de longueur.
Même. Et vous, vous jouez d'une flûte ou vous jouez de toutes ces flûtes ?
Alors, lorsqu'on apprend la flûte, on apprend toutes les flûtes.
Ah, donc, on dit qu'on joue de la flûte, mais en fait, on joue des flûtes, c'est ça ?
Tout à fait.
Et j'imagine que c'est la taille, hein, donc vous le disiez, mais aussi l'épaisseur, le diamètre, que sais-je encore, l'écartement des trous pour les mains, pour les doigts. C'est
oui.
Tout ça qui joue ?
C'est ça. Nous, on appelle ça un consort de flûte à bec. On utilise le mot anglais parce que c'est une pratique qui se faisait
consort,
à la Renaissance.
Consortium.
Consortium, donc famille dans le sens famille.
Consort, il y a aussi un lien avec concert dans consort quelque part.
Tout à fait.
Je crois qu'on distingue deux sortes de concertos. Le concerto da chiesa, c'est le concerto d'église, qui est le style de concerto sévère, grave, composé de quatre mouvements, et puis le concerto de camera, le concerto de chambre, lui il est à usage profane, il est de caractère plus léger, beaucoup plus libre, il peut comprendre des danses même. Il y a trois musiciens en général qu'on retient comme étant à l'origine du concerto, c'est Corelli, Torelli et Vivaldi, c'est ça ?
Oui, tous des Italiens.
Hein, il est le premier compositeur, ce Vivaldi, à utiliser systématiquement la forme du ritornello dans ses concertos ou ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le ritornello ?
Le ritornello, c'est la ritournelle en français, ça signifie le retour, c'est-à-dire que les musiciens, une fois qu'ils ont... Souvent, c'est des pièces qui sont chantées et l'instrumentiste reprend la mélodie au chant ou alors un petit extrait mélodique.
Donc ça alterne entre le soliste ou parfois les solistes et le reste, pardon, je vais le dire comme ça, de l'orchestre, c'est ça ?
Oui.
Et la ritournelle, elle alterne donc avec des sections qui sont, on va dire, dominées par des solistes. C'est là où ils mettent leur virtuosité en avant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au concerto, hein, une discussion finalement entre le soliste ou des solistes et le groupe. On parle aussi de cadence. Qui peut nous dire parmi vous trois ce que c'est qu'une cadence ?
La cadence dans
c'est
le langage
Morgane,
musical,
alors, qui répond, pardon.
Ouais. C'est un enchaînement harmonique pour conclure une phrase ou la laisser en suspens. Ou aller ailleurs. C'est comme dans l'écriture, on met des points, des virgules, des points d'interrogation, et bien c'est nos cadences musicales.
Il y a des cadences aussi qui sont écrites et d'autres non. C'est-à-dire qu'on a le droit d'improviser pendant un concerto, on s'arrête, et puis il y a la cadence qui est jouée par tel ou tel instrumentiste, je parle pas de l'époque forcément de la musique ancienne, hein, mais... tel pianiste, par exemple, a joué une cadence sur tel concerto et sa cadence a tellement plu que ça devient sa cadence qui est incluse dans le concerto, etc. Et c'est là, moi, j'y vois une continuité avec ce que vous nous disiez il y a quelques minutes, Morgane. En tout cas, je redis que la cadence est une démonstration du jeu des virtuoses, hein, c'est sûr. Et puis Vivaldi, il aimait bien faire des cadences parce que c'était un violoniste hors pair, je crois. Lui-même. Il a fortement influencé l'évolution de la technique du violon pour lui, mais certainement que ça se rapporte à d'autres instruments dont vous jouez, parce que je crois que l'écriture, la composition et la facture instrumentale sont sans doute liées. Plus l'instrument évolue, plus la manière de s'en servir change, mais aussi dans l'autre sens. L'instrumentiste peut avoir une idée qui fait que quelqu'un va construire un instrument d'une manière ou d'une autre. Non, vous avez des illustrations de mes propos là, par rapport aux flûtes peut-être, ou par rapport aux instruments à cordes, ou par rapport à la chiffonie peut-être, puisqu'elle a connu des évolutions, cette chiffonie, non ?
Alors oui, en fait elle vient de l'organistrum qui a ressemblé... à une chiffonie, mais en plus long. Et en fait, comme l'instrument était plus long, il fallait en jouer à deux. Il y avait une personne qui s'occupait d'actionner les touches pour faire les différentes notes, alors que l'autre tournait la manivelle pour mettre les cordes en vibration. Sauf que jouer à deux, forcément, c'est plus complexe. Donc on a fait évoluer l'instrument pour pouvoir y jouer seul. Et sur le modèle que j'utilise, qui est de la fin du Moyen-Âge, à partir du XIVe siècle, on trouve une corde qu'on appelle la trompette, qui a un bruit très particulier.
Rien à voir avec la trompette, non. En tout cas l'instrument.
Rien à voir avec l'instrument. En fait, c'est une corde qui fait un son un peu, qui grésille un petit peu, parce qu'il y a une toute petite pièce de bois qu'on rajoute sur la corde, qui s'appelle le chien. On l'appelle comme ça à cause de la forme de la pièce de bois qui ressemble à un chien qui vient vibrer quand on actionne la corde et qui fait un son un peu qui grésille, un peu nasillard, qui est vraiment typique de la vielle à roue. Et donc on a rajouté ça pour le rendre plus sonore. Donc ça c'est un exemple des évolutions qu'on peut trouver sur les instruments.
Et la vielle à roue, puisque vous reparlez d'elle par rapport à la chiffonie, bien sûr, l'évolution aussi, on la trouve uniquement dans le Limousin ou on la trouve ailleurs ?
Non, on la trouve partout, la vielle à roue. C'est un instrument qui est vraiment très très répandu à travers l'Europe. C'est un principe qu'on trouve beaucoup, dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de musique traditionnelle. Et outre la musique traditionnelle, même à l'époque baroque, c'est un instrument qui a tout un répertoire qui a été un peu oublié après, mais on voit beaucoup de tableaux des 17e, 18e siècle. On voit souvent des femmes d'ailleurs qui jouent de la vielle à roue.
Et alors, l'époque baroque, c'est juste après l'époque de la musique ancienne dont vous parliez tout à l'heure, donc vous jouez, c'est ça?
Alors, ce qu'on joue va jusqu'à l'époque baroque, mais c'est plutôt ça. Les débuts du baroque.
D'accord.
Oui, on distingue trois périodes, la période médiévale, la période renaissance, puis la période baroque.
Voilà, ça y est, on sait tout, grâce à Morgane, grâce à Pauline et grâce à Magali. Magali, vous nous faites un caprice?
Ah oui, volontiers, avec Francis Cotard.
C'est dit. Magali Poulbeau, aujourd'hui, le 20 février 2025, fait un caprice à l'antenne de RDC 93.4-92.5. Allez-y.
Oui, eh bien, j'ai mis de côté ce morceau pour évoquer mon premier instrument, c'est-à-dire la guitare classique, que j'ai débuté à 9 ans.
Excusez-moi, à 9 ans, c'était il y a 2-3 ans. Quoi.
Voilà, on est d'accord.
Guitare, je sais ce que c'est. Guitare classique, ça, faut vous m'expliquer le mot classique.
Et c'est un terme qui n'est pas si évident. On peut dire que si on parle de guitare classique, donc de répertoire classique, mais on peut être plus précis quand on joue de cet instrument. En fait, je dirais même quand je joue de la guitare polyphonique. Alors encore un mot, c'est un instrument qui, comme le piano, peut faire plusieurs voix à la
plusieurs
fois.
Plusieurs sons, oui.
Voilà. Et j'ai mis ce morceau de côté parce que c'est un morceau que j'ai travaillé. Et puis, pour souligner cet instrument qui maintenant a fait un sacré tour d'horizon et qui est présent dans tous les continents, qui est présent entre toutes les mains, jeunes, petits, plus âgés. C'est un instrument qui a énormément de succès. Je ne m'avance pas si je dis que c'est un des instruments les plus connus, parmi les plus connus et parmi les plus joués au monde.
Ouais, lui ou ses cousins ou ses cousines,
ah,
on
oui.
reparlera peut-être
voilà.
tout à l'heure, parce que ça a évolué dans l'histoire
voilà.
aussi. Alors ce que nous allons entendre, c'est
Capriccio Arabe
ouais.
par Anna Vidovica. Donc et c'est une pièce soliste.
Et au départ, cette œuvre a été dédiée par le compositeur. Le compositeur, c'est Francisco Tárrega, c'est ça?
Voilà, et donc c'est quelqu'un qui est guitariste, mais les guitaristes peut-être ne savent pas qu'il était également virtuose en piano. Et il menait de front les deux instruments. Et il a dû bien réfléchir pour choisir, parce que c'était très difficile pour lui, il aimait les deux. Donc vous devinez, il a choisi la guitare. Mais pour faire le lien avec le piano, c'est très beau, parce que si on fait des recherches des œuvres qu'il a écrites, par exemple, on va voir des transcriptions de Chopin, d'œuvres de Chopin.
Ah, je vous arrête. Transcription, c'est-à-dire qu'on réécrit, c'est ça? C'est comme l'arrangement?
C'est un aménagement de l'œuvre.
D'accord.
Voilà, parce que c'est un aménagement de l'œuvre pour la guitare. Voilà, et c'est... là, on voit qu'il avait une culture pianistique ouais. et qu'il les jouait, ces pièces.
Bien sûr. Francisco Tárrega, il a écrit ce qu'on va entendre après un long voyage à travers l'Andalousie et à travers l'Afrique du Nord. Et il l'a dédié, lui aussi, à quelqu'un. Il l'a dédié à un ami musicologue et compositeur de son temps qui s'appelle Thomas Breton. Tiens, on retrouve encore l'idée de dédier, d'offrir, de donner sa musique oui. à quelqu'un. Alors cette chanson a été interprétée, enregistrée d'innombrables fois par la plupart des guitaristes classiques,
oui.
dont le très célèbre Narciso Yepes. Mais ce que vous avez choisi, vous, aujourd'hui, c'est l'interprétation de Anna Vidovitch, c'est
oui.
ça? Je voudrais quand même dire que lors des funérailles de Tárrega, c'est-à-dire le compositeur, trois groupes de musique se sont disposés autour du cercueil du compositeur et ils ont solennellement interprété cette œuvre, le Caprice arabe, je vais le dire en français, et ceux qui ont assisté à l'action, à l'acte, s'en sont souvenus comme l'un des moments les plus émouvants de leur vie. Il y a eu des arrangements de cette œuvre pour alto notamment, et puis il y a une transcription par certains ensembles de cette œuvre soliste, et aujourd'hui elle est donnée par Anna Vidovic, c'est le choix de Magali Poulbeau pour donner nouveau note. Elle accorde sa guitare et elle arrive.
If you like this channel, subscribe by clicking on the notification bell. Thank you so much.
Voilà, et au tout début, on a entendu Anna Vidovic qui expliquait et qui disait le titre de ce qu'elle allait jouer. Merci de ce cadeau, Anna, aux auditeurs de RDC. Vraiment, vous nous gâtez beaucoup. Merci à vous, Magali, merci à l'ensemble Heptameron de tous ces cadeaux.
De Donnez-nous vos notes, c'est avec Stéphane sur RDC.
Pauline, vous êtes, on va dire, la chanteuse du groupe, même si vos collègues savent forcément chanter. Mais disons que vous avez une formation vocale assez poussée, très poussée. Je suis le premier à le reconnaître et à l'apprécier. Je vous le dis, vous le savez déjà, mais je vous le redis. Parlez-nous de votre voix, voix chantée lyrique.
Alors, ben, je suis mezzo-soprano.
Alors, mezzo-soprano, oui, ça veut dire.
Alors, c'est plutôt les voix les plus graves chez les femmes, même s'il y a des voix alto qui sont encore plus graves, mais qui sont très rares, par opposition aux sopranos, qui sont des voix plus aiguës.
Et là, il y a un répertoire particulier qui est écrit pour chacune de ces voix ou pas ?
Oui, parce que en fonction de l'étendue de la voix et de si on est plus ou moins à l'aise dans les graves ou dans les aigus ou dans les médiums, on ne va pas chanter la même chose. Et donc, il y a des types de rôles et des types de morceaux qui vont correspondre à chaque voix. Ce qu'on n'a pas forcément dans le répertoire de musique actuelle, qu'on peut transposer si c'est trop haut, et ben on peut chanter plus grave, c'est pas gênant. Dès qu'on remonte le temps pour tout le répertoire classique, là c'est vraiment très catégorisé. Et après, l'avantage de la musique ancienne, c'est que dans certains répertoires, on a plus de liberté aussi. Après, on a les contraintes des instruments avec...
Peut-être des lieux dans lesquels on joue aussi.
Des lieux et puis des instruments. En fonction des instruments, on ne peut pas jouer dans toutes les tonalités. On est obligé de faire des choix.
On revient à l'évolution de la facture instrumentale dont on parlait tout à l'heure.
Si je prends la chiffonie, bah, le bourdon, il peut être soit un do, soit un ré, ça ne peut pas être une autre note.
Donc, sinon, peut-être qu'on peut changer les cordes et accorder différemment. Pour des viols à roue, en tout cas, on fait ça.
C'est ça. Mais ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'on change de morceau en concert, il faudrait tout remodifier, ce qui est un peu compliqué.
Oui, c'est le temps du débat dont on parlait tout à l'heure sur l'œuvre précédente, etc. Là, vous nous parlez des voix de femmes, mais il y a les voix d'hommes aussi, non ?
Oui, on a la même séparation entre voix plus aiguës et voix plus graves, les ténors qui vont être plus à l'aise pour monter, et les basses qui vont avoir une voix plus grave, puis les barytons qui sont un peu l'équivalent des mezzo-sopranos qui sont dans une voix plus intermédiaire.
C'est vos cousins, quoi, les barytons, c'est vos cousins à vous qui êtes mezzo-soprano. Est-ce que la mezzo-soprano que vous êtes, elle ne chante que de la musique lyrique, du chant lyrique ou pas ?
Non, pas seulement. Alors j'ai une grande passion pour la musique traditionnelle et notamment la musique celtique aussi. Donc j'aime beaucoup chanter en breton ou chanter de la musique traditionnelle irlandaise.
Vous connaissez bien l'Irlande, vous connaissez bien la Bretagne?
Ah ben, j'ai grandi en Bretagne, je suis bretonne à la base.
Voilà pourquoi. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite.
Voilà. Et l'Irlande, ben, j'y habitais pendant un an, donc c'est pareil, une des plus belles années de ma vie, à faire beaucoup de musique là-bas, parce que ce qui est fantastique en Irlande, c'est qu'on a l'impression que les Irlandais sont tous musiciens, la musique elle est partout, tout le monde chante, tout le monde joue d'un instrument. Quand on va au pub, eh ben, on peut ramener son instrument.
Je vais quand même dire que je crois, pour avoir un peu visité l'Irlande, que c'est tout le monde ose. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas cette chape de plomb qu'on peut rencontrer dans d'autres cultures qui dit la musique c'est pour les spécialistes, la musique c'est pour les musiciens, ce qui pour moi est une hérésie totale. Oui. La musique c'est pour tout le monde. Vous en serez sûrement d'accord, toutes les trois.
Et quelque chose qui est fantastique là-bas, c'est que quand on va au pub, qui est quand même un des grands lieux de sociabilité en Irlande, bah, ça peut arriver, des fois on entend une cloche qui retentit et quelqu'un va se mettre à chanter une chanson. Et alors là, toutes les conversations s'arrêtent et tout le monde écoute. Et après, la vie reprend son cours.
Éventuellement participe,
mais c'est... Et n'importe qui peut faire ça.
À Temple Bar ou ailleurs. Ah. Est-ce que, Pauline, il vous est arrivé de demander quelque chose à la Lune?
Alors, ça m'est arrivé, on va dire.
Allez, comment ça?
Eh ben... Il se trouve que je suis arrivée au chant lyrique un petit peu par hasard. Quand j'étais au lycée, je chantais dans un groupe de rock. Et donc encore un autre type
rock celtique.
Non, pas forcément. Plutôt rock, voire à tendance métal.
Ouais.
Et j'avais voulu apprendre à faire du piano, sauf que quand je suis arrivée au conservatoire, on m'a expliqué que j'étais trop âgée et qu'il fallait commencer avant d'avoir 10 ans, ce qui est plus vrai aujourd'hui. Mais
tout change.
Voilà. Ça a changé depuis, mais à l'époque c'était comme ça. Et on m'a autorisée à m'inscrire en formation musicale. Donc je me suis dit, bah, à défaut de pouvoir faire du piano, je vais au moins apprendre à lire la musique, ça sera toujours intéressant. Et au bout d'un moment, on m'a dit, ah mais tu sais, tu devrais, il n'y a pas de place en piano, mais tu devrais essayer d'aller voir le professeur de chant. Et je ne savais pas que c'était du chant lyrique, donc moi je suis arrivée, je lui ai chanté, j'ai demandé à la Lune d'Indochine, parce que c'était un groupe qui a un peu bercé mon adolescence. Et il a été assez surpris du choix de répertoire. Je pense que c'était assez loin de ce qu'il était habitué à entendre en audition d'entrée.
Alors ce morceau qu'on va écouter, grâce à vous, c'est votre version qu'on va entendre ou celle d'Indochine?
Non, c'est celle d'Indochine.
Hein, ouais. C'est un morceau phare du groupe, hein, écrit par Michael Furnon. Et Michael Furnon, c'était le chanteur de Mickey 3D. Et ça a permis à Indochine de retrouver le devant de la scène après 10 ans de faible exposition médiatique, je vais l'appeler comme ça en tout cas. La chanson est très vite devenue un succès en France, puis dans une grande partie de l'Europe, plus d'un million d'exemplaires écoulés. Je vous souhaite, ensemble les Tamerons, d'avoir un CD, un jour un disque qui s'écoulera à autant d'exemplaires, évidemment. Le single s'est classé à la première place des ventes en France et en Belgique, et l'album a également été un succès quelques mois plus tard. La chanson, pourtant, savez-vous, a failli ne jamais exister parce que Indochine n'arrivait pas à trouver la version finale, celle qui allait satisfaire tous les membres du groupe, et le rythme était incertain pour eux, en tout cas. Pauline, finalement, vous avez failli ne jamais entrer en classe de chant. Si cette chanson n'avait pas existé, rendez-vous compte, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que nous aurions perdu, nous? Alors que la chanson finale, quand même, était envisagée comme une phase B. Vous savez ce que c'est la phase B d'un disque? C'est-à-dire celle qui complète le disque. Hein. C'est un producteur qui a persuadé les membres du groupe de continuer à chercher, car il avait senti que la chanson pouvait frapper fort. Et alors, Michael Furnon, le chanteur de Mickey 3D, il possède toujours la démo de ce tube, la première version, on va dire. Lors de l'enregistrement, le chanteur Nicolas Sirkis a proposé à Pauline, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, la fille de son ami Rudy Lyonnais, elle avait 8 ans, d'assurer les chœurs. La valeur n'attend pas le nombre des années. Pauline, vous nous dites que vous êtes tombée dans la musique à quel âge, vous?
Je ne saurais pas dire, parce que bon, j'ai toujours chanté tout le temps.
Donc dès le berceau?
Oui, je pense que c'est ça.
Et vous, Morgane?
7 ans.
L'âge de raison.
Très précis. Oui, c'est ça.
Et Magali?
Moi, ça a été la guitare à 9 ans, mais avant, je gazouillais tout ce que je pouvais gazouiller, c'est-à-dire, j'ose l'avouer devant vous, les génériques des dessins animés, je les connais encore très très bien aujourd'hui, je peux tous vous les faire.
Eh ben, alors ça, c'est noté pour la prochaine émission, la prochaine rencontre, s'il
vous plaît. Je vous assure.
C'est acté, le défi est lancé. Alors la chanson, elle est devenue une poésie que des enfants apprennent à l'école, et Michael Furnon, qui habite en face d'une école, entend de chez lui sa chanson, reprise par les élèves sous forme de poésie. Ravi, il déclare à la suite de cette anecdote: la chanson est passée près de chez moi, au coin de la rue, tout près, alors qu'il fallait un long laps de temps pour faire la version finale qui semblait finalement très loin. Parlons de reprise alors, et une version de J'ai demandé à la lune par l'ensemble Heptaméron, tiens, voilà qui pourrait être original.
En style français, en style français.
Oui, mais bien sûr. Et voici donc la version d'origine, c'est ça, Pauline ?
Oui, c'est ça.
Allez, demandons à la lune tous ensemble, s'il vous plaît. Morgane Collin va parler de sonate. Alors, à l'origine, le mot sonate, ça désigne une musique qui sonne. Et en italien, on dit sonata ou suonata. Et je trouve, moi, que dès le nom prononcé, ou dès qu'on entend le nom, on entend déjà une musique sonata, suonata. C'est sans doute pas un hasard si l'italien est par excellence la langue de la musique, avec l'allemand juste après. La musique opposée à la sonate, c'était ou c'est toujours la cantate ou la cantata. C'est un mot dérivé de l'italien cantare, c'est-à-dire chanter. C'est soit une cantate, soit une sonate, c'est ça, Morgane ?
J'y arriverai. Oui, tout à fait. Donc la sonate qu'on va écouter, c'est sonne sur l'instrument de la flûte à bec. Elle est interprétée par Jean-Pierre Nicolas, flûtiste français, qui a joué dans de nombreux groupes avec l'ensemble Fitzwilliam. Et la particularité de cette version, parce qu'il y en a beaucoup qui existent, donc c'est un larghetto d'une extrait d'une sonate en do majeur de Handel.
Alors, s'il vous plaît, un larghetto.
Larghetto.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Il y a différents caractères en musique qui sont demandés par les compositeurs. Mm-hmm. Ils sont exprimés en italien en général, mm-hmm. puisque c'est la langue de la musique à l'origine. Ouais. Et larghetto, c'est plutôt les mouvements un peu lents, légers.
Ah, c'est
mais
une indication de vitesse, de tempo, alors presque.
Plus de caractère. Uh-huh. Une fois, j'avais un élève espagnol qui apprenait la flûte, puis je lui dis, par exemple, il y a un autre mot qui est adagio aussi, c'est quelque chose de tranquille qui balade, puis je lui dis, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire, adagio, parce que c'est italien, peut-être qu'en espagnol il y a quelque chose qui ressemble. Alors il me regarde droit dans les yeux, il se met dans une position très décontractée, il me dit, bah, c'est adagio.
Ah, voilà.
Donc, très
relax. Pour lui, ça parlait vraiment, quoi.
Voilà, ça lui parlait tout de suite. Donc, larghetto, c'est un petit peu plus lent, voilà, il va vous montrer ça. Et la version de Jean-Pierre Nicolas est très intéressante parce qu'il va faire énormément d'ornementation. Donc il va décorer la mélodie avec des notes.
Ah voilà, c'est-à-dire qu'on peut décorer, alors c'est pas avec un pinceau, moi, vous me parlez d'ornementation en décor, moi je me vois avec un pinceau, un crayon de couleur, j'en sais rien, c'est un peu l'équivalent peut-être quand même.
C'est un peu l'équivalent, c'est-à-dire que le compositeur à l'époque baroque propose un canevas, une mélodie toute simple, et puis chaque interprète va proposer son ornementation, et suivant si l'interprète est virtuose ou pas, voilà, on a des versions différentes. Et c'est une pratique qui a été redécouverte au XXe siècle avec la redécouverte des musiques anciennes. Et c'est quelque chose que Jean-Pierre Nicolas propose dans sa version. Elle n'est pas écrite à l'époque, c'est lui qui l'a faite. Et ça, c'est intéressant. Mmh. Moi, ça m'a inspirée.
Ah oui, et ça vous arrive de le faire ?
Oui, tout le temps.
Alors, on distingue là aussi deux formes de sonates. La sonata da chiesa, donc religieuse, le plus souvent constituée de quatre mouvements, grave, vite, lent, vite, alors je le dis en français, vous m'excuserez, et puis la sonata de camera, la sonate de chambre, qui est une sonate profane, qui comprend généralement un prélude, puis plusieurs mouvements de danse. C'est donc en fait comme une suite de danse, ça se ressent, non ?
On va distinguer la suite de danse de la suite...
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des danses,
mais il y a des
airs de danse.
Oui,
mais, par exemple, chez Torelli, il y a des mouvements de sonate qui peuvent s'appeler intrada ou allemande. Et l'allemande, c'est le nom d'une danse. Enfin,
voilà,
pour ce
les
que j'en
gigues
sais.
Aussi, les menuels, et tout, ce, tout ça se reprend dans la sonate. Oui.
La sonate s'est élaborée de façon progressive, hein, rien n'était fixé, rien n'est absolument gravé dans le marbre au fil du temps, au fil de la facture instrumentale. Et puis, elle se distingue peu à peu d'autres genres tels que la partita, la canzone. La suite, on vient d'en parler. Alors si on écoutait Morgane, qu'est-ce qu'on écoute ? Vous nous redites le titre ?
C'est la sonate en do majeur de George Friedrich Händel, donc un Allemand naturalisé anglais par la suite.
Il a trouvé que l'Angleterre était meilleure que l'Allemagne.
Et il y a fait fortune, surtout en tant que musicien déjà à son époque, c'est assez rare.
Et alors on écoute ce choix de Morgane Colin dans Donnez une voix note maintenant. Je trouve que c'est très bien ornementé, ce que nous venons d'entendre. D'accord ?
Il est brillant.
Et donc, j'ai hâte. Vous jouez ça ? Vous
oui,
l'avez
ces
joué ?
Pièces-là, on les joue, oui. Alors. J'ai pas repiqué son ornementation. Je me suis inspirée pour en faire la mienne.
Je sais pas, vous, auditrices, auditeurs, mais moi, j'ai hâte d'entendre cette œuvre par Morgane et ses collègues de l'ensemble Heptameron. On revient à la corde pincée, s'il vous plaît, Magali.
Et on va parler d'A...
on va parler d'Adrien ou d'Adrienne, le roi.
Oui.
Alors, vous allez nous parler de Guiterne. Alors, quand vous m'avez dit ce mot tout à l'heure, avant l'émission, j'ai dit oui, comme si je savais, mais en fait, je ne sais pas du tout. Guiterne, ça ressemble à guitare, c'est ça ?
Oui, on peut dire guitare à la place de guiterne, c'est l'ancien mot. Et là, on se retrouve vraiment dans les débuts de la grande aventure à succès de la guitare, puisque la guitare Renaissance, elle est de la taille, il faut imaginer, de la taille d'un violon. Et elle est plutôt aiguë. Et à cette époque, à la Renaissance, son job, c'est d'accompagner les danseurs de quelques accords. C'est elle qui met l'ambiance. Et elle va avoir beaucoup de succès parce que...
Il y avait un DJ à l'époque, mais qui avait une guitare.
On peut dire ça. Et on peut, avec 3-4 accords de survie, je dis, on peut s'en servir et on peut vite être formé à la guitare. C'est ce qui va faire son succès. La prise en main est assez facile. Et donc, elle va être présente tout le temps dans les villages pour accompagner les danseurs.
C'est très populaire, très oui. répandu, c'est ça.
Et c'est un instrument joyeux. Mmh, et voilà. Comme elle va avoir du succès, eh bien, on va avoir envie d'écrire pour elle ce qu'elle accompagne. Et donc, le répertoire soliste va commencer à être créé, et M. Adrien Leroy en premier lieu.
Alors Adrien Leroy, c'est un luthiste, guitariste, compositeur, oui. imprimeur et libraire. Oui. Tout ça, oui, à lui tout seul. Oui. Je crois que c'était fréquent à cette époque hein, d'avoir plusieurs cordes à son arc, à sa guitare, si je peux dire. Donc d'être, je le redis, luthiste, guitariste, compositeur, imprimeur et libraire pour lui tout seul. Il a largement contribué, cet Adrien Leroy, à alimenter ses propres presses. Bien sûr, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais avec quand même 10 livres de tablature pour luth et pour guitare. Alors je redis ça, 10 livres de tablature pour luth ou pour guitare. Ça vous évoque quoi ce titre, 10 livres de tablature?
C'est impressionnant, je suis admirative de la force de travail de ces hommes, parce qu'il faut rappeler qu'ils ne vivaient pas jusqu'à 90 ans. Il vivait une cinquantaine d'années, même à partir de 40 ans, on était considéré comme un vieillard à l'époque. Hein, faut se rappeler le contexte. Et je suis admirative parce que ils avaient différentes casquettes qu'ils menaient avec brio. Et certains même construisaient leurs instruments avec le cerisier qui n'avait pas passé l'hiver dans le jardin.
Luthier. Ouais. Alors la tablature, c'est ce mot-là qui m'interpelle. Qu'est-ce que c'est qu'une tablature ?
Oh, c'est un système très très ingénieux qui perdure encore. C'est un système qu'utilisent les guitaristes électriques qui n'ont pas envie de se former à l'écriture solfégique. Donc ça fait plus de 500 ans que ce système existe. Ça veut dire qu'il doit être bon. C'est donc tablature, je le mettrai même au pluriel parce qu'il en existe plusieurs selon les pays et c'est là que le jeu commence.
Donc ça veut dire que la musique peut s'écrire autrement qu'avec les notes voilà. qu'on connaît le plus souvent, c'est ça hein?
Exactement, donc en fait on trace des lignes qui représentent les cœurs, les cordes de l'instrument et selon les pays on va rajouter des numéros pour indiquer les cases dans lesquelles les doigts doivent se poser. Les Français savaient plutôt être l'alphabet ABCD, italien et espagnol les chiffres, mais ils ont un jeu entre eux, c'est que la première ligne supérieure peut représenter la première corde ou la dernière corde. Il y a un effet de miroir. Voilà. C'est excellent pour la santé mentale de jouer en tablature ancienne.
Alors, le roi, il a continué en éditant et en imprimant des méthodes, un traité, des recueils de musique vocale, etc. Oui. Vous voyez, Pauline, j'y arrive. Et Pauline, il a aussi pensé à vous, quelque part. Et puis, il a fait beaucoup d'innovations. Il a introduit des innovations, notamment dans l'avènement de l'aire de cour. Et là, je reviens à l'autre nom ou au nom complément de votre ensemble, Heptaméron, ou, comment vous disiez tout à l'heure ?
À la cour des dames.
Ah, ben peut-être que c'est aussi en s'inspirant de la musique de Leroy, allez savoir. En tout cas, il est promoteur actif de la forme de l'air de cour, quand la voix de dessus devient prédominante par rapport aux voix inférieures. C'est-à-dire qu'elles, elles ont finalement un rôle, on va dire, d'établissement de l'harmonie, de l'arrangement, de la totalité. Les voix inférieures peuvent être d'ailleurs au fil du temps remplacées par des instruments et en général c'est un instrument et c'est le luth. Dites Magali, on aboutit alors à une chanson accompagnée, non ?
Ah oui, complètement. Et c'est vrai que ça sied bien au luth parce que le luth est d'un autre caractère que la guitare. La guitare est très gaie, très brillante et le luth va plus vers une tendresse où on prend le temps.
Alors vous nous proposez d'écouter une guiterne, c'est ça ? On redit le titre. Le titre,
oui,
c'est...
c'est une danse, une gaillarde d'Adrien Leroy.
Alors, une gaillarde, c'est une danse gaillarde alors, c'est ça ?
Oui, sportive, puisqu'il faut sauter, il faut avoir la santé pour tenir le tempo.
Aurons-nous la santé ? On va pousser les tables et on va se mettre à danser la gaillarde. Et c'est maintenant. Donc ça, c'était un son de guiterne. Ça existe encore des guiternes aujourd'hui? Vous en avez?
Oui, ah. Et les luthiers en fabriquent. Et j'en ai une qui m'a été offerte par Pierre Urban quand il allait partir. Elle m'a été offerte il y a 6 ans et c'était une rencontre très émouvante pour moi.
Alors vous nous avez parlé de la guitare classique, du luth, de la guiterne. Ça veut dire, Magali, que vous jouez de plusieurs instruments?
Ah oui, ça c'est les luthistes, qui est un terme générique. Un luthiste peut jouer des instruments de la famille des guitares et de la famille des luths.
Alors on va en entendre plusieurs tout au long de l'émission. On a donc, auditrice auditeur, aujourd'hui, dans Donnez-nous vos notes sur RDC 93.4 et 92.5, des multi-instrumentistes, et je vais dire une multi-chanteuse, mais qui est aussi instrumentiste. Voyez la richesse de l'émission de ce jour. D'accord. Alors maintenant, on va aller vers Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. Vers une autre proposition de Magali Pulbo. Los Imposibles. Je prends mon plus bel espagnol ou mexicain ou je ne sais pas, pour dire que s'agit d'une œuvre de Santiago de Murcia et qu'on retrouve dans un codex, c'est ça?
Oui, un codex qui avait été perdu et qui a été retrouvé à Mexico dans les années 1980.
Et là, c'est une guitare baroque qu'on va entendre.
Voilà. Donc,
qu'est-ce que ça veut dire, ça?
C'est l'évolution de la guiterne qui s'est développée, qui a fait ses pas. Et donc, voici ça.
C'est avant d'arriver à notre guitare à nous, c'est ça?
Enfin, celle qu'on connaît. Il y en a plein d'autres entre. C'est parce que les luthiers font des recherches, vous voyez, ils essayent les instruments. Et il y a des idées qu'ils gardent, d'autres qu'ils laissent passer. Et la famille est très très riche, mais ça va être la guitare du XVIIe siècle, celle qui va résonner à Versailles ou en Italie.
Et le codex Saldivar, c'est ça, il est conservé au Mexique, dans une bibliothèque privée. Et la musique a fait le voyage dans les bagages de certains Espagnols partis à l'époque s'installer aux Amériques, dans le Nouveau Monde. Los Imposibles, je le dis comme ça parce que l'orthographe d'origine, c'est un Y.
Oui,
au début,
tout à fait.
Hein, et construit sur un schéma très populaire en Espagne au XVIe siècle. C'est celui d'une chanson, notamment, qui s'appelle Guardame las vascas, ça veut dire Gardez-moi les vaches. Et je vais oser dire que cette chanson a connu plein d'évolutions et on trouve une certaine ressemblance avec un autre air très connu, qui lui est anglais, qui s'appelle Green Sleeves. Si on écoutait alors Los Imposibles, c'est étrange comme titre ça. Ça veut dire les impossibles?
Ça vient, si je ne me trompe pas, du nom d'une tribu qui porte ce nom.
Une tribu locale, alors, c'était peut-être...
En Amérique latine.
Dédiée à cette tribu, allez savoir.
Oui.
Alors c'est maintenant, voici Los Imposibles. Les voix, la chiffonie. Quel éventail instrumental et vocal ce matin dans Donnez-nous vos notes sur RDC. Alors savez-vous, Pauline, Morgane et Magali, que dans l'émission Donnez-nous vos notes sur RDC, on joue. Qu'est-ce qui joue? Ben, toutes les auditrices et tous les auditeurs. Qu'est-ce qu'on gagne? Un DVD et une invitation à venir assister à la diffusion en direct d'une émission de la série Donnez-nous vos notes depuis les studios de RDC, la station qui émet sur 93.4 et 92.5. Comment on gagne? C'est facile, il suffit de composer le numéro du standard et d'appeler très très vite juste après la question posée. Le numéro, je le donne, le voici, c'est le 05 45 95 09 87. 05 45 95 09 87. Magali, Morgane, Pauline, vous n'avez pas le droit de jouer, d'accord? Voici la question, attention, auditrice, auditeur, seule la première réponse donnée, bonne réponse donnée, sera la gagnante désignera qui a gagné aujourd'hui. La question, c'est parti. Quel est le prénom de la personnalité célèbre d'Angoulême, sœur du roi François Ier et grand-mère du roi Henri IV, qui a écrit l'Heptaméron, nom que nos invités de ce jeudi 20 février 2025 ont retenu pour appeler le groupe musical qu'elle constitue. Qui a écrit l'Heptaméron? En tout cas, quel est le prénom de celle qui a écrit l'Heptaméron? La sœur de François et la mamie de Henri. Voilà. On revient, s'il vous plaît, Pauline. Je rappelle le numéro peut-être. Le numéro du standard, 05 45 95 09 87. 05 45 95 09 87. On revient, Pauline, à vos choix, à vous. Tout à l'heure, on parlait de la musique traditionnelle. C'est une autre corde à votre arc?
Oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la musique traditionnelle.
Et alors, on va entendre quoi dans cette musique traditionnelle?
Alors, en Enni à Garonne.
Comment?
En Enni à Garonne.
Ah, et ça veut dire?
Ça veut dire celui que j'aime.
Ah, ou celle que j'aime, si c'est peut-être un homme qui chante?
Alors, là, c'est plutôt celle que j'aime, parce que...
Donc, c'est une déclaration d'un homme à une femme, alors?
Non, pardon, c'est moi qui m'inverse. C'est celui que j'aime. En fait, on est en Bretagne, sur les côtes. Beaucoup d'hommes sont des pêcheurs qui partent en mer et ne reviennent pas forcément.
Et on sait, tempête, Dieu seul sait quand ils vont revenir, hein, c'est ça?
C'est ça. Et donc là, le texte est pas très précis, mais on comprend entre les lignes que, en fait, c'est une femme qui pense à celui qu'elle aimait quand elle dit qu'ils jouaient ensemble quand ils étaient jeunes, ils ont grandi ensemble, et elle ne sait pas s'il reviendra et s'il est perdu à jamais. Donc, il est sans doute parti en mer et jamais revenu.
Celui que j'aime, autrefois, petit à la maison, quand nous étions tout près l'un de l'autre, mon cœur n'en aimait qu'un. Quand j'étais petite à la maison de celui que j'aime. Celui que j'aime, je l'ai perdu à jamais. Il est parti au loin et ne reviendra pas. Et voici que je chante à celui que j'aime. Celui que j'aime, un jour, il m'a laissé, parti vers les pays lointains, des pays que je ne connais pas, pour gagner son pain. Perdu, perdu un jour, celui que j'aime. C'est un peu triste, non?
C'est un peu triste. Alors, ça fait partie d'un genre qu'on trouve beaucoup dans la musique traditionnelle bretonne qui s'appelle la gouerce. C'est la complainte. On a beaucoup de chansons, souvent assez longues. Celle-là est assez courte, mais on en a qui ont des très nombreux couplets, parfois une vingtaine de couplets qui peuvent durer vraiment très très longtemps. Et c'est vraiment un des styles typiques de la musique traditionnelle bretonne.
Et je crois que cette musique, elle est cet air. Cette chanson-là est très très connue. Et il y a des auditeurs qui écrivent sur cette chanson-là quand ils l'écoutent. Il y en a un qui, notamment, a dit « Très belle version, bravo ». Et il a dit « Très belle version d'une très belle chanson » parce qu'il a écouté votre version à vous. Et puis un autre qui a dit « C'est magnifique, continuez vraiment ». Ben, vous avez continué, vous avez fort bien fait. Je vais vous dire, Pauline, je souscris complètement et comme vous avez bien fait de continuer. Alors la chanson a été écrite par un abbé, c'est l'abbé Jean-Baptiste Oliero, oui. Sur une mélodie vannetaise, donc de Vannes, c'est ça?
Oui,
la région
c'est
de Vannes, en Bretagne, et elle a été harmonisée par René Abjon. De quoi parle la chanson? Ben, Pauline nous en a donné un aperçu, puis j'ai donné quelques paroles aussi. Il y a finalement quand même plusieurs versions, quelques différences selon les régions, les époques peut-être, non?
Oui, et puis alors on parle de breton, mais en fait il y a plein de variantes du breton, donc en fonction des secteurs, c'est le propre de la musique traditionnelle. On va avoir une version à un endroit, on va faire quelques kilomètres, on va en avoir une légèrement différente. C'est pareil pour la musique, c'est pareil pour les danses.
La version la plus souvent chantée, elle est proche de celle de Bran et de Dénès, je crois, Dénès Prigent,
oui.
Comme ça qu'on dit.
Prigent, qui est un artiste que j'aime beaucoup d'ailleurs.
Ouais, et puis l'interprète avec une chanteuse australienne, avec la musique bretonne s'exporte gaillardement. Hein, alors vous, Pauline, votre version à vous, comment vous l'avez préparée? Est-ce qu'on va entendre?
Alors, elle date justement de l'année que j'ai passée en Irlande. J'ai profité de cette année pour beaucoup jouer de harpe et beaucoup chanter. Et j'ai eu la chance d'habiter dans un immeuble qui était rempli d'artistes, hein, parce que ma voisine du dessous était artiste peintre et mon voisin du dessus était réalisateur de films. Et un jour, mon voisin m'a dit « Écoute, cette chanson, enfin, j'aime beaucoup comment tu la joues et faisons un clip. » Donc, il m'a emmené chez des amis à lui qui avaient un home studio pour enregistrer. Et puis, après, on est allé sur les falaises de Moher en Irlande, qui est un des lieux touristiques qui sont vraiment emblématiques et magnifiques là-bas. Et il a gentiment fait un clip que je garde comme un très bon souvenir du temps passé là-bas.
Donc c'est associé à une de vos passions, c'est-à-dire la musique celtique, c'est ça?
Voilà.
Et mon petit doigt m'a dit qu'une autre de votre passion, c'était associée au Moyen-Âge.
Oui, exactement. Je suis
alors,
passionnée
hors de la musique dont on parle depuis tout à l'heure, mais plus largement, ou sur un autre domaine peut-être, c'est ça?
Alors, bah, de façon plus large, parce que j'ai une formation en histoire médiévale, hein, j'ai fait des études d'histoire à l'origine, et j'étais professeur d'histoire-géographie.
Oui, il faut que je fasse très attention à ce que je dis, alors. Et alors?
Et c'est vraiment une période qui me passionne.
Alors, elle vous passionne pour la musique, elle vous passionne pour les lettres, l'écrit, pour autre chose encore?
C'est ça, et puis pour les... Je trouve que c'est vraiment passionnant d'étudier la mentalité... Des gens de l'époque et comment je fais aussi partie d'une association qui fait du combat médiéval.
Oh.
Et on fait des spectacles avec de l'escrime chorégraphié.
Le béour,
c'est différent parce que le béour, j'ai envie de dire, on se tape réellement dessus. On met des armures et l'idée c'est de mettre son adversaire au sol et ça se fait par équipe. Nous on fait plutôt du spectacle, donc on prend des traités d'escrime médiévale qui ont été écrits plutôt à la fin du Moyen-Âge et on utilise les coups qui sont décrits par les maîtres d'armes de l'époque pour faire des chorégraphies à destination du public, parce qu'un vrai combat c'est extrêmement court, on comprend rien de ce qui se passe, ça va trop vite, si on s'y connaît pas souvent on comprend pas, et nous on essaye de rendre ça lisible pour que ce soit intéressant à regarder.
Alors on va en Bretagne, il y a peut-être des combats d'escrime médiéval en Bretagne, allez savoir, ça existe sûrement.
Sûrement.
En tout cas, on écoute. Alors vous nous redites le titre.
En Ini à Garonne.
C'est maintenant. Je crois qu'on entend un instrument, Pauline, en plus de votre voix.
C'est la harpe, hein, l'harpe celtique.
Ah, l'harpe celtique, une harpe particulière par rapport à l'harpe qu'on connaît dans l'orchestre aujourd'hui.
Alors oui, elle est plus petite et on ne peut pas tout jouer sur la harpe celtique. Les grandes harpes qu'on voit dans les orchestres ont des pédales, alors que sur les harpes celtiques, si on veut avoir certaines notes, on est obligé de lever ou de baisser des petites palettes qu'on appelle ça en métal qui nous permettent d'avoir les notes qui ne sont... On n'a pas une corde pour
de
chaque
changer
note.
De tonalité, voilà. Par exemple, etc. Morgane.
Oui.
Un prologue. Qu'est-ce que c'est qu'un prologue?
Le début d'une histoire, l'avant-histoire.
Ah ah! Et alors de quel prologue allez-vous nous parler maintenant?
La plus importante de l'histoire de l'opéra, le premier opéra qui est né en Europe, l'opéra a été inventé en Italie, bien sûr, par Claudio Monteverdi, l'Orfeo.
Alors c'est un drame lyrique au départ, hein. L'Orfeo c'est un des premiers opéras, moi je voudrais dire, hein, de l'histoire de la musique finalement, souvent on dit le premier, bon, certains situent cet opéra à la frontière avec le madrigal, parce qu'il serait comme un développement mis en scène d'un madrigal, c'est une idée qui est assez répandue ici ou là, il est basé, je le disais, sur le mythe d'Orphée et Eurydice, le héros grec veut sauver sa femme des enfers, l'œuvre comprend un prologue, et 5 actes. On va entendre la toccata. Qu'est-ce que c'est qu'une toccata, s'il vous plaît, Morgane?
Alors, dans le vocabulaire de la musique, la toccata, ça vient de l'italien toccare, qui veut dire toucher l'instrument. Et souvent, ce sont des improvisations écrites, des compositions pour clavier. Et là, c'est pas du clavier qu'on va entendre, et ce n'est pas improvisé parce que Monteverdi l'a écrit à 5 voix pour des cuivres, et notamment des trompettes, ce qui est assez nouveau qu'on fasse rentrer des trompettes dans l'orchestre, si vous voulez. Et pourquoi toccata? Parce que à l'époque, les trompettes jouaient à plusieurs, et il y en a une qui jouait la voix écrite de la mélodie, et les autres improvisaient les autres voix. Ce qui est une pratique courante qu'on appelait le contrepoint improvisé.
On apprend plein de choses ce matin, merci. Et Monteverdi, il a écrit quelque chose sur sa partition. Il a écrit que la toccata doit être jouée 3 fois par tout l'orchestre avant le lever du rideau. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais 3 fois de suite, pourquoi pas, d'ailleurs. Ça peut faire comme un appel mot au calme, une introduction finalement. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Une toccata, c'est beau. Et puis, dans ce prologue, il y a un autre extrait que vous avez repéré, que vous avez choisi, Morgane. C'est lequel?
Alors, je crois que ce que l'on vient d'entendre, c'est la musica.
Ouais.
Donc, on va pouvoir écouter l'autre extrait.
On a fait une inversion, vous voulez dire.
Oh, bah
d'accord. Alors, voilà. Alors, on écoute maintenant l'autre extrait de ce prologue. Bon, ben finalement on n'aura que la musica. On n'aura que la musica, mais c'est beau. Alors, dites-nous, cette musica, quand même, elle est faite, on en parlait tout à l'heure, avec une forme de ritournelle aussi, c'est-à-dire...
Qu'on entend tout au début, qui est instrumentale,
ouais.
Avant que la chanteuse qui représente l'esprit de la musique parle et explique le pouvoir d'Orphée
Alors, ritournello, vous avez dit que c'était la ritournelle tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que quelque chose qui revient, un retour incessant, en alternance avec d'autres choses. Et puis d'autres, quand même, disent que ça vient d'un autre mot qui s'appelle tornando, qui signifie retournement ou floraison. C'est joli, hein.
C'est joli. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque ritournelle, on aura une instrumentation différente, parce que son chef, là, Gabriel Garrido, il est flûtiste aussi et guitariste, et il aime colorer ses opéras. Mm-hmm. C'est vraiment un coloriste, et il va faire jouer les cordes, puis après il va rajouter les flûtes, puis à un moment on va avoir les cuivres. Donc alors, à chaque fois ça donne un caractère différent, et ça alimente justement ce que dit la musica à ce moment-là.
Floraison, à l'époque de l'année où nous sommes, avec ces températures printanières, on serait tenté de suivre la deuxième définition, le tornando, qui signifie retournement ou floraison. Parmi les instruments que Monteverdi indique pour interpréter Orfeo, il a relevé Flautina alla Vegisima Segunda. Alors si je traduis mot à mot, je crois que ça veut dire c'est une petite flûte à bec à la 22e. Ça veut dire qu'elle sonne différemment qu'une flûte habituelle, ordinaire, c'est ça?
C'est-à-dire qu'elle sera plutôt dans les aigus.
Ouais, je crois que c'est 3 octaves au-dessus de la note écrite. C'est-à-dire qu'il y a donc, on confirme, plusieurs flûtes, hein, c'est ça?
C'est ça.
Et celle-là, elle ne doit pas être très très grande.
Celle-là est toute petite et passe par-dessus l'orchestre, d'où son intérêt. Parce que les grandes, elles ne timbreraient pas de la même manière, on n'arriverait pas à les entendre de façon solistique.
Ah oui, donc il y a des raisons acoustiques, tiens.
Tout à fait.
J'allais dire, liées à la facture et aux dimensions des instruments. Magali, Kapsberger, si je vous dis ça, qu'est-ce que vous répondez?
C'est un compositeur incontournable pour les théorbistes. Et j'emploie encore un autre mot, peut-être,
oui.
Le théorbe Kesako.
Ben voilà.
C'est un grand luth, un luth grave. En fait, on a eu besoin de notes graves pour accompagner les chanteurs, et c'est justement la même période, Monteverdi, que le théorbe commence à venir dans l'orchestre. Et donc, on a allongé le manche des luths, et on a obtenu des sons bien plus graves qui ont vraiment intéressé les chanteurs et les accompagnements en général.
Et donc cet instrument, le théorbe, si on veut le décrire, on peut ?
Oui, il a 14 cordes simples.
Et vous jouez sur 14 cordes ?
On essaye. C'est là vous pointez exactement le sport du théorbiste qui consiste à prendre la bonne corde sans ne pas les voir. c'est tout un art et ça se divise en deux. On a le petit jeu qui concerne des cordes dans le registre médium et on a le grand jeu. Là on a les graves majestueuses.
Alors souvent, cette pièce qu'on va entendre, qui s'appelle Canarios, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Canarios, ça veut dire canard ?
Non, ça évoque une danse à l'époque.
Ah, parce qu'en musique, faire des canards, vous comprenez ce que
je veux dire. Ah oui, ça peut, oh, oui, oh bien.
Alors, elle est souvent une des premières pièces que travaillent les apprentis théorbistes, c'est ça ?
Oui. Elle est très jouée, c'est un peu l'équivalent des jeux interdits sur la guitare classique. Vous voyez, c'est une pièce incontournable qui est souvent jouée parce qu'elle est belle, elle est gracieuse, elle est facile d'écoute et elle aide.
Alors le compositeur, je reprends son nom de scène, tiens, viens-je dire, Johannes Hieronymus Kasberger, je ne sais pas comment on devrait dire. En tout cas, ce n'est pas son vrai nom. Voilà. Son vrai nom, c'est Giovanni Girolamo ou Giovanni Geronimo Kasperberger. C'est un interprète virtuose et compositeur vénitien. On ne dirait pas avec son nom, hein, quand même. Il devint une référence pour ses pairs en raison de son grand talent d'interprète. C'était un virtuose de théorbe, notamment. Et c'était le cas lorsqu'il a joué à la cour du pape, quand il s'est établi pour travailler à Rome. Il a composé de nombreuses pièces, surtout pour luth et chitarrone.
Oui, c'est l'autre nom du théorbe, parce qu'on peut dire il tiorbo, la tiorba, chitarrone. À l'époque, on n'est même pas très sûr de son vrai nom, qu'importe, l'instrument existe.
Et puis, il a écrit aussi de la musique vocale, je me tourne vers Pauline, hein, il ne vous a pas oublié. Et sa musique est bien connue pour l'étrangeté des rythmes employés, pour l'époque, et pour la conduite mélodique assez surprenante parfois. C'était l'un des principaux compositeurs pour théorbe, et aussi l'un des plus novateurs, et il a beaucoup contribué à l'évolution de ses instruments. Et voici donc Canarios de Kasperberger, c'est ça ?
Tout à fait.
Et maintenant ? C'est vous qui jouez, Magali ?
Oui, tout à fait.
Ah, donc vous êtes enregistré avec les moyens du bord ou...
Ah oui, des moyens maison.
Mais des moyens déjà intéressants par rapport au résultat. Je ne parle pas de la technicienne hors pair que vous êtes. Évidemment, la prochaine fois, je crois qu'il faudra amener les instruments. Mm-hmm. Donnez-nous vos notes. C'est sur R-R-R-R-D-D-D-C-C-C-C. On reste avec l'ensemble Heptameron et on revient plutôt avec l'ensemble Heptameron, avec des choses que cet ensemble interprète et notamment des danses de John Playford. Alors c'est un danseur, un maître de danse comme on disait. Il est aussi libraire et éditeur parce que il faut avoir plusieurs cordes à son arc pour vivre de son art ou avec l'art. Il a publié The English Dancing Master, c'est un ouvrage qui le fait connaître dans le domaine de la danse et qui reste l'un des plus importants parmi les références de l'histoire de la danse en matière de contredanse. Une contredanse, qu'est-ce que c'est ? Au départ, c'est une country dance, c'est-à-dire une danse de la campagne en Angleterre. Et puis, certains historiens quand même disent que finalement pas du tout, il s'agit d'une contredanse, c'est-à-dire qu'on danse en vis-à-vis, en se regardant l'un en face de l'autre, l'un contre l'autre. Toine Warbeau, puisqu'on parle de France, a écrit un traité d'orchésiographie. Je ne résiste pas, ou plutôt je ne résiste point, à l'envi de dire le titre de ce traité, à moins que je ne demande à Pauline, puisqu'on a entendu qu'elle était spécialiste du Moyen-Âge, de nous dire le titre, de nous lire le titre exact de ce traité de Thoinot Arabaud. On écoute.
Orchestrographie est traité en forme de dialogue par lequel toute personne peut facilement apprendre et pratiquer l'honnête exercice des danses.
Ça veut dire qu'au départ, on y revient aux suites de danse, hein, musique et danse sont intimement liées, c'est ça ?
Oui, c'est vraiment quelque chose qui est très lié. On peut difficilement danser sans musique, ou en tout cas, si on n'a pas d'instrument, on va chanter pour accompagner la danse, mais ça va vraiment ensemble. Hein.
Alors, c'est une suggestion pour l'ensemble Heptaméron que je fais, c'est la deuxième, au moins. C'est la composition d'une œuvre à partir de ces quelques mots du titre de l'orchestrographie. Ça serait, je crois, assez amusant d'essayer de se livrer à cette création, cette composition. Retour à notre époque, retour vers le futur. Playford, c'est le deuxième à décrire un corpus de danse de son temps, un corpus qui comprend toutes les figures nécessaires à la danse. Et puis même si la description des pas n'est pas indiquée, l'ouvrage contient la musique et les instructions pour danser plus de 100 country dances. Outre cet ouvrage, il a publié plusieurs autres recueils de musique, dont The Division Violin, réputé pour conjuguer de nombreuses difficultés violonistiques. En effet, les maîtres à danser étaient généralement violonistes et ils faisaient danser au son de cet instrument, un petit peu à l'image de la guitare dont vous parliez tout à l'heure. C'était un instrument de poche, un petit violon, une pochette, on l'appelait, parce qu'on pouvait facilement la ranger dans la poche du maître de danse. Alors, on écoute la première danse de Playford.
Avec plaisir.
Allez, c'est maintenant, voici une danse de John Playford. À danser, on l'appelait aussi baladin, c'est-à-dire qu'il était chargé d'aller vers la danse, le bal, et il devait aussi donner des leçons de maintien. Vous voyez, comme de la musique, on arrive aisément aux bonnes manières, selon la formule consacrée. Le mot baladin ne vient pas de la balade, de la promenade, c'est du côté de la Provence qu'on peut chercher, c'est pas la Bretagne, pardon Pauline. Baladin vient du mot provençal balar, qui signifie danser, en espagnol ça dit bailar. C'est le souvenir des tangos que j'ai vus lors d'un séjour en Argentine. Et chez nous, on peut aller au bal. D'ailleurs, Morgane, Magali, Pauline, ce soir, vous serez évidemment les plus belles pour aller danser. Revenons à nos moutons, les deux danses que nous allons entendre. Nous avons entendu la première, voici la deuxième. Elles ne sont pas interprétées à la pochette, mais par l'ensemble Heptaméron. Alors, la deuxième danse, on entend aussi de la flûte, on entend aussi de la guitare, ou ses cousins. Et peut-être oui. Des percussions aussi. Voici la deuxième danse. Thank you. fait un saut dans l'espace et dans le temps. Ce qu'on vient d'entendre, c'est A Ground de Gottfried Finger, c'est ça?
Tout à fait, c'est ça. Alors,
c'était flûte et guitare baroque. C'est aussi interprété par vous?
Oui.
Ah, c'est Magali et Morgane, pendant que Pauline se reposait sur ce morceau-là, c'est ça?
Voilà.
Hein, ça avis d'un auditeur, magnifique, moment de suspension, un autre. Quel bel équilibre entre les instruments. La notion d'équilibre entre les instruments, comment vous pourriez l'expliquer les unes ou les autres? Qui va se jeter à l'eau?
Un travail d'écoute pour déjà régler les volumes, parce qu'on a des instruments qui sont de volume assez proche, mais qui peuvent facilement couvrir l'autre joueur.
Alors le volume, ça veut dire chacun sait quel est le volume qu'il doit donner à son instrument, c'est ça?
Voilà.
Et ça peut changer selon les morceaux à jouer?
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Quand on est à trois, d'ailleurs, il faut qu'on équilibre la voix, parce que la voix a une plus grande capacité que nos instruments.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire
en timbre et en intensité,
en intensité, elle peut nous couvrir complètement sans problème.
Et Morgane et Pauline ont une longueur de son que moi, guitariste, luthiste, je n'ai pas. Moi, je vais être un instrument plus à impact. Donc,
attaque, par exemple.
Voilà, exactement. C'est ce qui est intéressant. Donc, je vais avoir plus la rythmique, la responsabilité de la pulsation, d'ouvrir la pièce. Souvent, je fais les introductions où je propose un tempo. Et puis, après, on le fait évoluer avec le jeu des nuances que tout le monde connaît, les crescendo.
Et est-ce que ça peut changer, cet équilibre, selon les lieux où vous vous produisez?
Alors oui, c'est la raison pour laquelle, pour chaque concert, tous les musiciens en général demandent une répétition dans les lieux, parce que suivant qu'il y ait de la...
Une répétition, un raccord, on appelle
ça aussi. Un raccord, voilà, suivant la réverbération. Nous, les instruments anciens, on a besoin de beaucoup de réverbération quand même, pour faire sonner. Typiquement, la flûte, par exemple, elle n'a pas de caisse de résonance. Donc, sa caisse de résonance, c'est ou le corps de la personne qui joue, qu'on pourrait un petit peu considérer comme ça, mais c'est surtout la pièce dans laquelle elle résonne. Contrairement à la guitare et au théorbe ou aux luths qui ont leur propre caisse, mais qui ont un volume aussi propre à chaque instrument.
Merci. Alors ce Gottfried Finger, on dit aussi Gottfried Finger, c'est un compositeur baroque morave. Il est né à Olomouc, c'est aujourd'hui en République tchèque, et il a reçu une éducation musicale là-bas. L'éducation musicale, évidemment, c'est important. Vous l'avez eu toutes les trois.
Oui.
Ouais. Vous avez des bons souvenirs ou pas?
Oui.
Oui, oui, globalement, non, peut-être.
Il y a eu des passants.
Sans donner de nom.
Joker.
Et ensuite, il a séjourné, ce Finger, un temps à Munich, et il a gagné sa vie comme musicien. Ensuite, comme Handel, on le disait tout à l'heure, il est parti en Angleterre, et il a travaillé une partie de sa carrière à la cour de Jacques II d'Angleterre. Il a été membre de la Chapelle Royale. Lorsque le roi s'exile en France, il devient compositeur indépendant. Et puis, il a eu quand même un sérieux succès lors d'un concours, parce qu'il a adapté une pièce qui s'appelait Le Jugement de Paris, et il a été quatrième. Il est revenu en Allemagne, où il est resté jusqu'à la fin de sa vie. Avant d'entendre le dernier extrait musical de ce jour, voyons si nous avons une gagnante ou un gagnant. Alors je me tourne vers Jean-Marc. Et oui, je vois que nous avons un gagnant, et ce gagnant, il s'appelle Pierrick. On aurait voulu le faire exprès, ça aurait été extraordinaire, Pauline, n'est-ce pas? C'est peut-être un Breton qui a migré et qui habite à Piégut. Alors bonjour Pierrick, bravo, merci à toutes celles et à tous ceux qui ont joué aujourd'hui. Je rappelle la question du jour. Quel est le prénom de la personnalité célèbre d'Angoulême, sœur du roi François Ier et grand-mère du roi Henri IV, qui a écrit l'Heptaméron, le nom que nos invités de ce jeudi 20 février 2025 ont retenu pour appeler le groupe musical qu'elles constituent? Alors attention, elles vont vous donner la réponse toutes les trois. Le nom de cette personnalité célèbre d'Angoulême, le prénom, c'est...
Marguerite.
Et oui, c'est Marguerite, c'est la perle. Marguerite d'Angoulême, Marguerite de Valois et reine de Navarre aussi. Donc Pierrick, bravo, merci d'avoir joué, merci d'avoir gagné. Une seule personne gagne à chaque fois, tout le monde ne peut pas gagner toutes les émissions, mais d'autres jeux viendront dans les futures émissions. Alors auditrices, auditeurs, à bientôt pour que vous tentiez à nouveau votre chance dans Donnez-nous vos notes.
Donnez-nous vos notes, c'est avec Stéphane sur RDC.
sur ADC 93.4, 92.5, Donnez-nous vos notes connaît déjà le dernier extrait musical de l'émission de ce jeudi 20 février. Le temps de Donnez-nous vos notes aura passé bien vite, très vite, trop vite, mais bon, les meilleures choses ont une fin, n'est-ce pas, mesdames? L'ensemble de Tameron, ben, c'est lui qui va conclure, c'est lui qui a débuté l'émission. Avec quel air, quel morceau, qu'est-ce qu'on va entendre?
C'est La Ora Spira de Fresco Baldi.
Alors, si on traduit, on peut traduire ou pas?
Alors, je vais résumer un petit peu le texte, en fait. C'est un texte très poétique qui parle de nymphes qui écoutent le bruit du vent et des ruisseaux et du vent qui traverse les bosquets. On est dans quelque chose qui est vraiment dans l'imaginaire baroque. On peut s'imaginer tous ces tableaux où on voit des nymphes au bord des rivières. On est vraiment dans cet imaginaire-là, avec une invitation à aller danser et à se réjouir et à chasser les vents cruels.
Et on relie encore musique et danse et une expression de la joie associée à tout ça, c'est ça? La joie, le partage, la gaieté?
Oui.
Même si parfois il y a des musiques tristes, hein, évidemment. Alors c'est écrit par Fresco Baldi, Girolamo Fresco Baldi, c'est ça?
Oui.
Et il est parfois présenté comme un compositeur influent de la première moitié du XVIIe siècle, et on dit que ses œuvres de maturité comptent parmi les déclarations les plus émouvantes et les plus distinctives de l'esprit baroque en Italie. Donc voici qui acte le bon choix de l'ensemble Heptameron, n'est-ce pas Magali, n'est-ce pas Morgane, n'est-ce pas Pauline, de retenir les œuvres de ce musicien. Alors le père de Fresco Baldi était un organiste d'une certaine distinction, je vais dire. Chez vous, Pauline, Morgane, Magali, il y a des musiciens dans la famille ou pas?
Oh, chez moi, peu. J'ai deux cousins pianistes, mais pas plus.
Ouais.
Moi, ma mère était un petit peu guitariste. Mm-hmm. Et puis,
j'aime bien le un petit peu.
Oui, parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas du tout touché sa guitare.
Si vous commencez son prénom.
Béatrice. Hein.
Alors Béatrice, s'il vous plaît, il faut reprendre votre instrument pour accompagner votre fille.
Et puis sinon, elle chante dans sa vie tous les jours. C'est une chanteuse aussi, même si c'est pas une chanteuse de formation, mais elle chante beaucoup.
Et vous, Marianne?
Bien, moi, c'est un papa qui aimait beaucoup la musique, qui chantait, qui fredonnait les airs d'opéra à la maison, et qui jouait un petit peu la quena les week-ends quand il avait le temps. Cette flûte des Andes, justement.
Alors si on revient au compositeur, Fresco Baldi, là qu'on va entendre, on se souvient surtout, paraît-il, de lui pour ses œuvres écrites pour clavier. Mais il s'est également distingué en tant que compositeur de madrigaux. C'était la forme la plus importante à son époque. D'origine italienne, le madrigal s'est répandu ensuite dans toute l'Europe et même aux confins de l'Europe, là-bas tout au bout de l'Angleterre, jusqu'à l'Écosse, jusqu'à l'Irlande sûrement. Il a sans doute été influencé par d'autres compositeurs de madrigaux, Luzzaschi par exemple, et Gesualdo. C'est l'ora spira tutta vezzosa, si les brises soufflent toujours charmantes. C'est une œuvre de maturité, c'est une pépite, c'est ça?
Oui.
Alors on écoute maintenant? C'est parti. Pépite, auditrice, auditeur de Donner une nouvelle note sur RDC 93.4, 92.5, une pépite interprétée par des perles, je le redis, par des marguerites. Alors voilà, Pauline Marguerite, Morgane Marguerite, Magali Marguerite, la boucle est bouclée, ou presque. Pauline, Morgane, Magali, avant de conclure, peut-être pourrions-nous parler de projets tout récemment vécus ou bien à venir. Vous jouez souvent, sans dire précisément ici ou là, mais là, dans la région, dans le département, comment ça se passe?
Oui, c'est notre vœu le plus cher, puisque nous sommes trois musiciennes vivant en Charente. Nous avons envie de nous exprimer sur notre territoire. Et donc, nous sommes dans une dynamique de rencontre pour dire coucou, nous sommes là. Et on veut bien visiter, on veut bien faire résonner nos instruments dans des belles églises, dans des logis, voire même les châteaux. Donc c'est un appel.
Les concerts à domicile aussi, ça se répand de plus en plus, le phénomène, oui. Et je trouve ça très intéressant. Alors il faut avoir un lieu, hein, évidemment, capable d'accueillir un concert, mais ça peut se trouver, on rassemble la famille, les amis, les voisins. Vous jouez uniquement ensemble ou vous jouez aussi ailleurs ?
On joue aussi séparément puisqu'on a chacune notre activité d'artiste propre.
Ouais.
Mais de temps en temps, on se rencontre dans d'autres ensembles. C'est ça qui est assez amusant.
Comme quoi, on a des personnes très très ouvertes parce qu'elles acceptent de jouer ensemble et avec d'autres. Et parfois, deux sur trois vont avec un autre ensemble. C'est toujours dans le domaine de la musique ancienne que vous jouez ailleurs, si je peux dire.
Donc pas toujours, ça peut être de la musique traditionnelle aussi.
Ah, celtique, irlandaise.
Oui, notamment, mais pas que. Ça peut être traditionnelle française aussi.
Et uniquement avec la voix de chanteuse lyrique ou pas?
Ah non, pas seulement.
Ah, donc vous avez... Allez, je vais oser. Vous pouvez me faire une note ou deux de chanteuse lyrique, là, de mezzo-soprano, ce que vous voulez ou pas?
Oula, je suis pas très réveillée.
Oui, mais bon, ça va aller quand même.
Allez. Voilà, ça fait
et une note avec votre voix à vous.
Avec c'est ma voix à moi aussi, ma voix de chanteuse.
Oui, d'accord, mais sans ma voix de chanteuse lyrique, je veux dire.
Si je fais la même note. Oh, oh.
Vous pouvez refaire l'autre.
Oh.
Et l'autre.
Oh.
Voilà, on entend des timbres et je veux dire des ornementations qui sont assez différentes. Hein. Il y a un peu plus de vibrato dans l'une que dans l'autre, etc.
Oui.
En fait, c'est le placement. Alors, je peux demander un cours de chant, mais c'est le placement de votre voix qui fait ça.
Oui, c'est ça. En fait, quand on chante, c'est notre corps, l'instrument. Et en fait, on apprend, quand on travaille le chant, à l'utiliser pour le faire sonner différemment.
Selon ce qu'on a à chanter.
Voilà, et là j'ai montré deux exemples, mais en musique traditionnelle, on va aussi utiliser d'autres placements. Là, c'était ce qu'on appelle la voix de tête aussi. Je vais utiliser une voix plus grave aussi, qu'on appelle la voix de poitrine, qui va sonner différemment.
Et puis le son tendu, etc., etc., etc.
Voilà,
ça veut dire que, si j'entends bien, là c'est un prof de chant qui parle. Vous êtes enseignante aussi?
Oui. Exactement.
Vous aussi,
oui,
la flûte
aussi.
Et vous aussi aux guitares?
Oui.
Vous enseignez où, ça on peut le dire?
Donc moi j'enseigne au Conservatoire de musique de Grand Cognac, j'enseigne la guitare classique et aussi j'ai la co-responsabilité de l'atelier de musique ancienne.
Et vous, Pauline?
J'enseigne également au Conservatoire de Grand Cognac.
Tiens, tiens.
Le chant et j'ai aussi la chance de...
Et alors Morgane, vous enseignez au...
Au Conservatoire, mais de Grand Angoulême.
Ah, comme quoi, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, et encore. Ben voilà, c'est l'heure, auditrices, auditeurs. C'est le terme de notre voyage du jour. Merci beaucoup à Heptaméron d'avoir accepté de nous donner ses notes. Merci Jean-Marc. Pour la technique apportée. Merci à celles et ceux qui ont participé au jeu du jour. Félicitations à Pierrick de Piégut, notre breton de Dordogne. Il a gagné un CD ou un DVD et une invitation à participer à une prochaine émission. Le mois de mars sera l'occasion, le 27 mars, d'accueillir Nico. Il nous donnera ses notes, il nous offrira ses notes. Qui est-il? Que fait-il? Il nous dira tout, ou presque, de lui. Je ne doute pas que nous aurons plaisir à recevoir les notes qu'il nous donnera, qu'il nous offrira. Merci à tous les auditeurs, à toutes les éditrices, et merci encore des témoignages que vous nous apportez pour dire combien vous appréciez cette émission. Donnez-nous vos notes. Merci à l'ensemble Heptaméron. Merci Pauline.
Merci.
Merci Magali.
Merci.
Merci Morgane.
Merci.
Et puis, au revoir. Sachez que dans quelques temps, peut-être que vous pourrez revenir, on essaiera de trouver les instruments. A bientôt sur les ondes de RDC. Jean-Marc, tu sais, tu peux envoyer le générique parce que pour aujourd'hui, donnez-nous vos notes, c'est fini. Donnez-nous vos notes, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à l'invité d'avoir accepté de nous donner ses notes. Merci à l'invité d'être venu nous donner ses notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. C'était « Donnez-nous vos notes, une note, des notes, donnez-nous des notes, des bonnes notes, donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes, donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magicien des sons, magicienne des sons, magicienne des mots, magicien des mots, donnez-nous vos notes. Chanteur ou chanteuse, instrumentiste, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui seulement. Chers auditeurs, chères auditrices, nous aurons bientôt le plaisir de recevoir un nouvel invité ou une nouvelle invitée, et pourquoi pas un groupe d'invités. Alors, à vous toutes, à vous tous, je donne rendez-vous pour la prochaine émission de Donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. Qui voudra bien nous donner ses notes ? Merci à Jean-Marc pour la technique apportée, assurance de qualité tout au long de l'émission, et surtout, merci à vous, auditrices et auditeurs, de Donnez-nous vos notes. À bientôt, pour moi ce sera encore une très grande joie. Alors oui, à bientôt pour une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes. Voilà, c'est la fin.